Dr. Scott Winnell. La foi de ne pas être guéri. Frères et sœurs, comme M. Hall l'a mentionné dans sa sermonnette, nous venons de célébrer la Pâque et les jours des pains sans levain. Il y a un peu plus d'une semaine, ceux d'entre nous qui y sont baptisés ont eu à nouveau l'occasion de prendre part au symbole de Jésus-Christ. Un de ces symboles étant du pain. Ce pain est un pain sans levain qui a été béni pendant la cérémonie de la Pâque. Ce pain sans levain est rompu pendant la cérémonie de la Pâque et distribué à tous ceux d'entre nous qui y participent. Nous avons ainsi l'occasion de mettre ce pain rompu dans notre bouche et de nous rappeler qu'il symbolise le corps brisé de Jésus-Christ. Comme on nous l'a expliqué durant la cérémonie de la Pâque, ce pain rompu doit nous rappeler que le corps de Christ a été brisé en grande partie pour que nous puissions être guéris. En fait, vous l'avez peut-être lu, comme je l'ai fait moi-même lors de mes études bibliques en préparation de la Pâque. Vous avez peut-être lu ces passages d'Ésaïe qui prophétisent au sujet de ce Messie qui viendrait un jour en la personne de Jésus-Christ, que son corps serait alors brisé et battu à mort, et que son visage serait rendu méconnaissable à ceux qui l'auraient connu auparavant. Mais Christ a accepté de passer par là pour que nous puissions être guéris à travers ses meurtrissures. Ceux d'entre nous qui se sont fait oindre l'ont entendu mentionner durant la prière prononcée par le ministre qui était présent. Il disait alors que ce sont les meurtrissures de Jésus-Christ appliquées à notre corps qui nous obtiennent la guérison. Nous parlons souvent de l'importance de la foi et de la guérison. Nous savons que Jésus-Christ a parlé de l'importance de la foi et comment, dans certains cas, lui-même, tout fils de Dieu qu'il était, n'avait pu guérir à cause du manque de foi des personnes qui l'approchaient pour être guéri. Ainsi, Christ a souffert pour que nous puissions être guéris. Pourtant, il y a encore un autre aspect à ce concept de foi et de guérison. Vous savez, quand nous considérons l'Église aujourd'hui, combien de nos frères voyons-nous souffrir? Combien d'entre nous souffrent physiquement? Combien parmi ceux qui ont été oints souffrent physiquement et n'ont pas encore été guéris? Est-ce parce qu'ils manquaient de foi? Ou pourrait-il y avoir d'autres raisons importantes au fait que les gens qui ont été oints et qui semblaient avoir beaucoup de foi n'aient pas encore été guéris? Est-ce qu'il pourrait parfois y avoir un élément qui échapperait à notre compréhension? Frères et sœurs, aujourd'hui je veux parler d'un aspect de la foi et de la guérison que nous oublions parfois de considérer. Beaucoup ont la foi d'être guéris. J'ai été membre de l'Église de Dieu toute ma vie. J'ai aussi été ministre, depuis pas mal de temps maintenant, en jugé par mes cheveux gris et mes rides au visage. Tout cela m'a donné l'occasion et le privilège d'interagir avec beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu. En tant que ministre, j'ai ainsi imposé les mains à un bon nombre d'entre eux lorsqu'ils venaient me voir pour se faire oindre. Je priais alors Dieu d'intervenir dans leur vie, tout en étant convaincu que, souvent, ceux qui venaient me voir avaient la foi et certains en avaient même plus que moi. Et cependant, tous n'étaient pas guéris. Oui, frères et sœurs, beaucoup ont la foi pour être guéris, mais combien y en a-t-il parmi nous qui ont la foi pour ne pas être guéris? Combien d'entre nous auront la foi même si Dieu dit « Non, je ne vais pas te guérir » ou « Je ne vais pas te guérir dès maintenant » Oui, combien, dans ces conditions, conserveront alors leur foi en Dieu en tant que notre guérisseur? Le titre de mon sermon d'aujourd'hui est « La foi de ne pas être guéri ». Nous allons parler un peu de cela aujourd'hui. En guise d'entrée en matière, je devrais peut-être vous expliquer certaines choses à propos de ceux d'entre nous qui ont le privilège de prendre la parole. Je ne peux pas parler au nom de tous les intervenants, mais je sais que la plupart d'entre nous sont un peu dans la même situation. La plupart des points que nous abordons dans nos sermons reflètent des expériences que nous avons vécues ou vivons présentement en tant que membres de l'Église de Dieu. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes tous des œuvres en voie de progression entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il agit sur chacun de nous et nous façonne. le ministère y compris. Ainsi, lorsque vous entendez des messages de notre part, rappelez-vous que vous entendez là des leçons que nous avons apprises nous-mêmes. Alors que les années passent, j'ai l'impression que Dieu m'a donné une vision particulière à propos du sujet dont nous allons parler aujourd'hui, même au point de me forcer à apprendre certaines choses, que je le veuille ou non. N'est-ce pas ainsi que Dieu fonctionne? Il travaille sur nous et nous façonne. Il s'efforce de développer en nous sa façon de penser et de voir les choses. Ainsi, comme moi, vous aussi, vous avez de nombreuses occasions d'apprendre des leçons à propos de la foi et de la guérison. Rendons-nous d'abord au chapitre 11 du livre aux Hébreux, au verset 6. C'est là un passage qui nous est très familier. Vous le savez, Hébreux 11 est le chapitre de la foi. Nous y voyons beaucoup d'exemples d'individus, hommes ou femmes, qui sont des modèles de foi. Certains sont nommés directement, d'autres sont évoqués par leurs exploits. Ce chapitre met l'accent sur la foi. Le verset 6 est un verset qui nous est très familier et je pense que nous le connaissons tous. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, sous-entendu à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous voulons lui plaire, Dieu dit que nous devons avoir la foi. En fait, quand nous considérons la signification de l'expression « lui être agréable », laquelle est tirée du grec, on se rend compte que cela implique plus que le simple fait de le rendre heureux. Il faut le satisfaire entièrement. Beaucoup de choses que nous faisons pour Dieu peuvent le rendre heureux, mais le satisfaire entièrement est impossible si nous n'avons pas la foi. Pourquoi en est-il ainsi? Oui, pourquoi? Pourquoi est-il impossible de plaire entièrement à Dieu sans la foi? N'est-ce pas parce que, en l'absence de foi, nous montrons que nous doutons de la puissance de Dieu, nous doutons de ses capacités. En d'autres mots, nous doutons de sa toute-puissance. Ainsi, quand nous venons à lui avec l'intention de lui plaire, il veut être persuadé que nous savons qu'il est le Dieu tout-puissant. Il veut que nous ayons la foi et il va créer des occasions pour que nous puissions en avoir. Revenons un instant à ce concept de foi en la guérison. Combien d'entre nous, lorsque nous sommes malades et avons besoin d'être guéris, ne contactons-nous pas un ministre pour nous faire oindre et ne nous attendons-nous pas ensuite à être guéris sur le champ? Certains d'entre nous ont vécu cette expérience, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ministres vivons parfois une telle expérience. Nous imposons les mains à quelqu'un pour qui nous prions et, à la fin de la prière, cette personne est parfois guérie. En fait, une telle guérison peut parfois même se produire durant la prière. Je me souviens de cet homme qui est venu à moi un beau jour alors que nous étions en train de nous assembler pour célébrer la fête des pains sans levain. Nous étions à 5 minutes du début du service et c'est pourquoi il me demanda si je ne pourrais pas l'oindre après les services. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il souffrait beaucoup. J'avais l'impression que c'était son dos qui lui occasionnait ces douleurs, car je voyais qu'il avait de la difficulté à se tenir droit. Effectivement, et il ne tarda pas à me le confirmer, ajoutant « Oui, mon dos me cause d'intenses douleurs depuis des semaines. J'ai vu des médecins, j'ai subi bien des traitements, et rien ne me soulage. » C'est pourquoi, en dernier recours, il s'était finalement confié à quelqu'un du ministère et avait demandé à être oint après les services. Je l'ai alors regardé dans les yeux et lui ai dit « Nous avons 5 minutes, je vais en profiter pour vous oindre dès maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre 2 heures pour cela. » Sur ce, nous sommes allés dans la salle d'onction, je l'ai oint, et alors même que je priais encore, il s'est mis à se redresser. Nous étions en train de vivre une de ces guérisons instantanées. Quand j'eus fini, il a dit « Je crois que je suis guéri. » Après les services, il s'est approché de moi pour me dire une fois de plus « Je crois que je suis guéri. » Il m'a appelé 3 jours plus tard pour me répéter « Je crois que je suis guéri. » 2 semaines plus tard, il m'a appelé de nouveau pour me répéter qu'il se croyait guéri. Certes, c'était là une guérison étonnante. Cependant, frères et sœurs, c'était la guérison d'un homme qui n'avait pas beaucoup de foi. Oui, celle d'un homme qui n'avait pas beaucoup de foi. Dieu avait été sa dernière option. Quelques semaines plus tard, il avait quitté l'Église. Je ne suis pas sûr qu'il croyait que l'Église qu'il fréquentait était l'Église de Dieu. Il ne croyait pas que le ministre qu'il oignait était un ministre de Dieu, ça je peux vous le dire. Et pourtant, Dieu l'a guéri. Je pense que Dieu tenait à lui faire comprendre quelque chose. Son but était de lui montrer que parce qu'il venait à lui, il allait le guérir, car c'était là une prérogative divine, et il l'exerçait par l'intermédiaire de son Église et de son ministère. Ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu ait accordé cela à un homme qui n'avait pas une grande foi. J'ai eu le privilège, à l'instar de nombreux ministres dans cette salle, d'oindre des gens dont nous savons qu'ils ont une foi fantastique. J'ai oint des gens qui, j'en suis persuadé, ont plus de foi que moi. Je sais qu'il me faut encore croître dans la foi, même si je ne considère pas que celle-ci est faible, car je pense quand même avoir grandi dans la foi. La plupart d'entre nous, quand nous voulons être guéris, nous demandons une onction et espérons un résultat sans tarder, et c'est bien. Dieu ne nous ordonne-t-il pas dans Jacques chapitre 5 « Quand vous avez besoin de guérison, appelez les anciens » et la prière efficace et fervente d'un homme juste est très utile. C'est là le commandement qui nous est donné au verset 14 et 16. Nous y reviendrons. Mais qu'en sera-t-il si nous ne sommes pas guéris immédiatement? Pire, qu'en serait-il si nous n'étions pas du tout guéris dans cette vie? Et que se passerait-il si Dieu nous laissait souffrir pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années ou même des décennies? Certains d'entre vous souffrent effectivement depuis des décennies. Vous avez été oint plusieurs fois et Dieu ne vous a pas encore guéri. Comme vous, je connais des gens qui ont souffert pendant tout ce temps. Cela amène une question. Avons-nous la foi d'attendre, sachant que notre Dieu Tout-Puissant ne commet jamais d'erreur? Avons-nous une confiance absolue en lui, sachant que, de tous les êtres de l'univers, il sait parfaitement pourquoi il agit comme il le fait? Je pense que nous le savons. Le fait est que c'est précisément quand nous ne sommes pas guéris que nous développons ce genre de foi. Mais, frères et sœurs, pourquoi Dieu choisirait-il de ne pas nous guérir immédiatement, même si nous venons à lui avec une pleine foi? N'est-ce pas lui qui nous a ordonné de venir à lui avec une pleine foi? Pourquoi ne nous guérirait-il pas immédiatement? Nous devons savoir, et nous en verrons quelques exemples dans un instant, que, depuis des millénaires, Dieu se sert de nos épreuves de santé comme d'un puissant outil d'enseignement, comme d'un puissant outil de perfectionnement de ses saints. Oui, il se sert de nos problèmes de santé depuis des millénaires. À qui pensez-vous quand vous pensez à des individus qui ont été affligés de problèmes de santé au cours des âges? Y a-t-il eu des gens que Dieu a choisi de ne jamais guérir, ou du moins pas immédiatement? Nous allons maintenant parler de certains d'entre eux. Reportons-nous pour commencer au premier chapitre du livre de Job, au verset 1. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'individu, un individu qui avait vécu il y a plus de 4000 ans. Et quel commentaire Dieu fait-il au sujet de Job dans sa parole inspirée? Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Frères et sœurs, combien d'entre nous dans cette salle ne voudraient-ils pas que Dieu parle d'eux en ces termes? Qui ne voudrait s'attirer de tels compliments de la part de Dieu? Cette personne est irréprochable, elle est intègre, elle me craint et se détourne du mal. Que signifient ces mots? Pensez-y. Sans reproche ne veut cependant pas dire parfait. Cela veut dire qu'on ne peut rien nous reprocher. Nous serons au-dessus de tout reproche. Cela signifie que ceux qui vont nous examiner de près, même s'ils procèdent méticuleusement, ne pourront rien trouver en nous qui soit foncièrement mauvais. Il n'y aura rien à nous reprocher. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais au moins n'afficherons-nous pas ces péchés évidents qui sautent aux yeux. Intègre et droit est synonyme de droiture de caractère. Aux yeux de Dieu, on suivra le droit chemin. On sera moralement pur. Job craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Ce n'était pas une crainte parfaite, mais il reflétait le caractère de Dieu et il évitait certainement le mal. Il tournait le dos au mal. Cela le préoccupait à tel point que lorsque ses enfants se réunissaient et organisaient des fêtes, il faisait des offrandes pour eux au cas où ils auraient péché. Il voulait s'assurer d'être en règle. Il ne voulait pas que son image soit ternie devant Dieu. Job était cet homme dont Dieu allait plus tard vanter les mérites en présence de Satan le diable, comme nous le verrons un peu plus tard. Oui, il sera fier de le citer en exemple, disant « Vois, mon serviteur Job, ceci ne vous fait-il pas penser à un père ou à une mère, et plus encore à des grands-parents qui se vantent de leurs petits-enfants ? Mais voyez la réplique de Satan. « Ah oui ? Eh bien, laisse-moi l'approcher. Ne l'as-tu pas entouré d'une haie protectrice ? Laisse-moi m'occuper de lui, et nous verrons alors comment il réagira. » Notez que c'est Dieu qui permit tout ce qui allait arriver ensuite. Tout d'abord, Job allait subir de dures épreuves qui affecteraient ses possessions matérielles et sa famille. Tous ses enfants tués sur le coup, il en avait 10. Des voleurs qui s'introduisent et lui prennent ses bœufs, ses brebis et ses chameaux, qui tuent ses serviteurs et lui prennent tous ses biens. Mais Job refusera d'en mettre le blâme sur Dieu. Face à cela, Dieu va se vanter une nouvelle fois de lui devant Satan. Voyons-le au début du deuxième chapitre de Job. Job, chapitre 2, versets 3 à 5. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ?» Et Satan répondit à l'Éternel, « Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et dans presque tout le reste du livre, nous voyons Job souffrir sur le plan physique, sans compter ses problèmes précédents, comme la perte de tous ses enfants et de tous ses biens. Le voilà frappé d'ulcères malins et douloureux, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, comme il est dit au verset 7. Entre parenthèses, ces ulcères n'étaient pas seulement douloureux au point qu'il dut prendre un tesson pour se gratter, mais il est fort possible qu'il dégageait aussi une odeur nauséabonde, ce qui l'obligeait à sortir de sa maison et d'aller s'asseoir sur un tas de cendres. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'arrivent ses amis, et trois d'entre eux ne trouvent rien de mieux à faire que de l'accuser faussement. Mais Job le supporte patiemment. Notez que Dieu n'a pas jugé bon de guérir Job à ce stade, ce qui ne l'empêche pas de continuer à louanger son Créateur. Voyons à présent la fin du livre de Job. Job chapitre 42. À quelle conclusion Job est-il arrivé à la fin de son épreuve, ou du moins presque à la fin? Il semble que Job ait tiré cette conclusion avant que Dieu ne le guérisse, et il est évident que Dieu ne l'a pas instantanément délivré de son affliction. En fait, suite à l'intervention d'Élihu, le jeune homme qui prit la parole en dernier et qui exposa correctement les erreurs de Job et de ses trois amis, Dieu consacra 5 chapitres à élaborer sur sa propre magnificence et comment Job l'avait perdu de vue. Finalement, dans Job chapitre 42, verset 2, nous voyons Job qui répond à l'Éternel disant, Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est là tout ce que Job trouva à dire. Puis Dieu se prépara apparemment à le guérir. Job avait dû en arriver à une crainte plus profonde de Dieu, à une plus grande appréciation de lui. Il a dû réaliser à quel point Dieu était sublime, ce Dieu qui avait choisi de ne pas le guérir à court terme. Il devait en arriver à comprendre qu'il avait affaire au Dieu des dieux, au Tout-Puissant, à l'Éternel, à celui qui est, qui était et qui vient. C'est celui qui a nommé les étoiles, une à une, et qui les a placées dans les cieux. Il est celui qui rassemble le vent, celui qui retient la mer et toutes ces choses. Job devait en arriver à une compréhension plus profonde de Dieu. Son épreuve avait pour but de changer la vision qu'il en avait. Après que Job eut appris cette leçon, Dieu le guérit. Et après qu'il eut prié pour ses amis, Dieu pardonna à ceux-ci. Considérons cet autre exemple. Tournons-nous pour cela vers 2 Corinthiens chapitre 12. Je pense que beaucoup d'entre vous devinent déjà où je veux en venir. Pendant que vous vous rendez à 2 Corinthiens chapitre 12, permettez-moi de préparer un peu le terrain. Nous allons bien sûr parler ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait-il la foi? Pensez-y bien. Voici un individu que Dieu a appelé à une vie de ministère. Et dès le début, Dieu lui annonce qu'il aurait à affronter des moments difficiles et qu'il mourrait finalement d'une mort violente. Il ne tarda pas à s'en rendre compte, car Dieu allait le frapper de cécité pendant 3 jours afin d'attirer son attention. En plus, il a fait naufrage 3 fois et passa 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il a reçu 39 coups de fouet 5 fois. Il a été battu de verge 3 fois. À Lystre, il a été lapidé et laissé pour mort, ce qui ne l'a pas empêché d'y retourner peu après pour fortifier les disciples. Vers la fin de son ministère, alors qu'il était descendu à Césarée et se préparait à aller à Jérusalem, il fut averti qu'il y subirait des tribulations, qu'il risquait gros, et c'est pourquoi certains frères le supplièrent de ne pas s'y rendre. Il persista cependant dans son intention, et comme il les voyait pleurer, il leur dit, Actes chapitre 21 verset 13, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Paul se rendit donc à Jérusalem, où il fut effectivement emprisonné. Puis, après plusieurs essais infructueux pour défendre sa cause, on le conduisit à Césarée, où il passa 2 ans avant d'être envoyé à Rome, à sa propre demande, car il tenait à défendre sa cause devant l'empereur. Finalement, après bien des péripéties, le bateau qui devait le conduire à Rome fit naufrage, mais put se rendre jusqu'à Malte. Une fois débarqué sur l'île, Paul se fit mordre par une vipère, mais Dieu ne permit pas qu'il en meure, et son ministère continua. Dieu a utilisé Paul pour écrire combien de livres dans le Nouveau Testament? 14. Combien de livres Moïse a-t-il écrit? 5. On peut alors se demander si Paul n'aurait pas eu quelques problèmes de vanité à cause de ce don pour l'écriture. Car il est un fait que Dieu s'est servi de lui plus qu'il ne l'a fait avec n'importe quel autre être humain au cours de l'histoire. Voyons donc 2 Corinthiens chapitre 12, où ce point est abordé par Paul lui-même. Au verset 7, il dit, 2 Corinthiens 12, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, oui, Dieu a révélé beaucoup de choses à Paul, qui les a transcrites dans ses lettres ou épîtres. Comme déjà mentionné, Moïse a écrit 5 livres de la Bible, alors que nous en devons 14 à Paul. Certes, les livres de Paul sont plus courts, mais ils constituent tout de même le tiers du Nouveau Testament. Poursuivons. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il savait donc d'où lui venait cette épreuve, et il commençait à comprendre pourquoi il la subissait. N'oublions pas non plus qu'il avait apparemment été formé par Christ en personne, lorsqu'il s'était retiré au désert d'Arabie. Verset 8. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Il s'agissait là d'une écharde dans la chair, un peu comme l'épreuve que Dieu fit subir à Job. Il y en a beaucoup qui pensent que cela affectait ses yeux. Il avait peut-être eu une dégénérescence maculaire. Il souffrait peut-être de cataracte. Il apparaît que les lettres ultérieures de Paul n'étaient plus écrites de sa main. Il avait en effet des compagnons de voyage plus tard. Et on peut se demander s'il n'était pas devenu aveugle vers la fin de son ministère. Paul avait donc imploré Dieu à 3 reprises à propos de son affliction. Mais il s'était fait dire, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Dieu d'ajouter, « Paul, je t'ai accordé d'incroyables bénédictions. Tout d'abord, je t'ai appelé. Tu as été élu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu seras co-héritier avec Jésus-Christ. Je t'ai aussi accordé d'être compté parmi mes apôtres pour que tu mettes sur pied des églises et fasses entrer des gens dans la famille de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être guéri maintenant. Ma grâce te suffit. Je t'en ai donné assez comme ça. » Paul avait compris le message que Dieu lui adressait. Il conclut alors disant, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Passons maintenant à 2 Timothée, chapitre 2, qui est probablement la dernière lettre que Paul ait écrite. Il était en prison au moment où elle fut rédigée, et il était peut-être aveugle à ce moment-là. Cet homme a-t-il souffert? Comprenait-il ce que c'est, une épreuve? Probablement plus que la plupart des gens. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui, il nous faut persévérer avec Christ. Paul l'avait bien compris. Comment Paul a-t-il pu en arriver à dire cela? À dire que si nous persévérons avec Christ, nous régnerons avec lui. Est-ce là ce qu'il a fait? Oui, en tout temps et en toute situation, sous les coups et sous la torture, dans les combats contre les lions, dans la perspective de perdre la vue et de ne pas être guéri. Et il continue à tirer ses conclusions lorsqu'il ajoute « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Verset 13 « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Rappelons ce qu'il disait au début du verset 12, à savoir que « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Rendons-nous à présent à Jacques chapitre 1, où nous allons voir un passage des Écritures que nous connaissons tous, je crois. C'est intéressant ce qui y est dit dans un contexte d'épreuve. En effet, il semble particulièrement difficile de se montrer joyeux lorsqu'on est confronté à une situation où l'on souffre abondamment sur le plan physique. Mais c'est là ce que Jacques, sous l'inspiration divine, nous demande de faire. Voyons donc Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il nous faut donc avoir à l'esprit que lorsque Dieu met notre foi à l'épreuve, cela produit chez nous de la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est là un point intéressant à considérer, n'est-ce pas? L'épreuve de notre foi produit la patience. Inversement, pour produire de la patience, nous devons permettre que notre foi soit mise à l'épreuve. Quant à la patience, si nous continuons à la cultiver, qu'est-ce qu'elle produira? La perfection. Cela nous perfectionne. Cela fera de nous des êtres complets, auxquels il ne manquera rien. Il faut donc que notre foi soit mise à l'épreuve, et il nous faut développer de la patience pour atteindre la perfection et ne manquer de rien. C'est l'équation que Jacques établit ici. Reportons-nous maintenant à Philippiens chapitre 4. Ceci est une autre lettre de l'apôtre Paul, une de ses épîtres qu'il a écrites alors qu'il était en prison et qu'il souffrait dans les chaînes. Pourtant, ne nous donne-t-il pas ici de belles paroles encourageantes? Et vous savez, ce ne sont pas là des paroles en l'air. Il l'a vécu, il était là, et ressentait la souffrance que lui occasionnaient ses chaînes, sans oublier son problème oculaire. Et je me demande en quel état étaient ses yeux à ce moment-là. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ainsi, lorsque nous sommes malades, conformément aux instructions contenues dans Jacques chapitre 5, nous prions et demandons à être oint par un ministre de Dieu afin d'être guéri. Ce n'est pas mal que de demander à Dieu de nous guérir sans tarder. En fait, c'est ce qu'il attend de nous. Oui, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous prions Dieu, sachant qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que nous pouvons avoir pleinement foi en lui, qu'il est en contrôle de la situation et que ses choix et ses décisions à notre égard sont parfaits, cela nous procure une grande paix. Il promet de nous accorder sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Cela peut défier le bon sens, mais avec lui, cela est possible. Frères et sœurs, combien de personnes connaissez-vous dans l'Église de Dieu qui doivent endurer des épreuves incroyables, mais qui ont malgré tout une paix presque inimaginable? Oh, ces personnes ne vont peut-être pas être transportées de joie et réclamer qu'on leur donne encore plus d'épreuves. Cependant, elles rayonneront une paix interne. Elles sauront que Dieu a le contrôle de la situation et elles seront capables de l'endurer. Allons maintenant au psaume chapitre 27, où Dieu nous révèle certaines des leçons qu'il veut que nous apprenions à travers nos épreuves, y compris nos épreuves de santé. Psaume 27 est un psaume de David, qui révèle que David avait aussi une bonne compréhension de ces choses. Psaume chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est dur de se soumettre à des épreuves et de se montrer patient pendant l'épreuve. Quand nous prions Dieu pour être guéris, nous ne voulons pas attendre. Du moins, c'est là mon cas. Pour être franc avec vous, chaque fois que je suis allé voir un ministre pour être oint, ce n'est pas avec l'intention d'attendre. Et je pense que la plupart des gens qui sont venus à moi, je ne veux pas ici me prononcer pour mes collègues dans le ministère, mais quand les gens viennent à moi pour demander une onction, ils s'attendent à être guéris. Et il n'y a pas de mal à ça. Pourtant, ne lisions-nous pas tantôt cette recommandation que Dieu nous fait? Espère en l'Éternel, il affermira ton cœur si tu attends après lui. Heureux celui qui dira, « Mon Dieu, je sais que tu as le contrôle de toute situation. Je vais donc te laisser agir en tant que Dieu, même si tu sais parfaitement ce que j'attends de toi, car j'ai confiance en ta capacité de jugement. » Notez aussi ce passage dans Psaume chapitre 37 et le verset 9. Psaume 37, verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oui, ceux qui attendent le Seigneur hériteront la terre. Cela nous ouvre une toute nouvelle perspective, à savoir combien il est important d'attendre Dieu. Revenons brièvement à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, où Paul élabore sur le fait d'avoir des épreuves. Il était, comme nous le savons, un homme habitué aux épreuves. Que nous apprend ce passage? Un passage qui en dit long sur le sujet. Nous verrons qu'il y est question de trois éléments. Paul commence par dire, 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Nous ne sommes pas les seuls à vivre des épreuves comme celles que nous avons. De plus, nos épreuves ne sont pas les pires que l'on puisse imaginer. C'est ce que l'on est porté à penser lorsqu'on se trouve au milieu de l'une d'elles. C'est là ce que Satan voudrait nous faire croire. Mais Paul nous dit que ce n'est pas le cas. Notre épreuve n'est pas la pire qui puisse être imaginée. Et, par ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à en avoir. Puis il enchaîne disant, « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cela n'est-il pas réconfortant? Il est vrai que parfois, Dieu va nous tester au-delà du seuil de ce que nous pensions pouvoir endurer. Effectivement, il nous fera parfois dépasser les limites de ce que nous aurions considéré comme possible. Cela est particulièrement le cas pour ce qui est de notre capacité d'endurer des épreuves de santé. Combien d'entre nous qui ont dû faire face à de telles épreuves ne se sont-ils pas exclamés en rétrospective, « Vous savez, si j'avais su, il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, que cette épreuve durerait aussi longtemps, j'aurais dit, « Ôtez-moi la vie, ne me soumettez pas à cela, car ce serait trop me demander. » Cependant, qu'apprenons-nous par de telles situations? Voyez ce que Paul conclut à ce sujet dans Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Frères et sœurs, il y a 2 aspects à cette vérité profonde. Le premier est d'en être convaincu intellectuellement, et cela est donné à chacun de nous. Mais il faut ensuite que la gravité agisse et fasse en sorte que le concept gagne la région de notre cœur, afin de nous faire acquérir une compréhension plus terre-à-terre de ce que signifie « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je suis persuadé qu'il a fallu des décennies à Paul pour en arriver là, des décennies d'épreuves et de souffrances. Pour en revenir à 1 Corinthiens 10, verset 13, « Après avoir dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, il ajoute, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parfois, la guérison viendra immédiatement après l'épreuve, comme ce fut le cas de Job. Parfois, Dieu permettra que l'épreuve de santé s'étale dans le temps, tout en nous accordant de temps en temps un certain répit. On pourra alors reprendre son souffle, avant que ça ne recommence de plus belle. Parfois, le moyen de s'échapper sera de s'endormir et de se réveiller dans la résurrection. Nous ne pensons pas toujours à cette alternative du fait que nous sommes humains. Oui, les humains ne considèrent pas la mort comme une opportunité. Ils la voient comme une fin en soi. Mais comment Dieu voit-il la chose? Je ne vais pas me tourner vers Isaïe 57, bien que ce soit une de mes écritures préférées. Au verset 1 et 2, il est question de la façon dont les justes peuvent parfois être délivrés du mal. Parfois, la meilleure façon de se soustraire à une terrible épreuve de santé consistera à se réfugier dans le sommeil de la mort, nos noms étant inscrits de façon indélébile dans le livre de la vie. Puis, l'instant d'après, pour ce qui est de notre conscience, voilà que nous nous élevons dans les airs pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, à toujours délivrer de nos souffrances. Parfois, c'est ainsi que Dieu choisira de nous délivrer. J'ai oublié de me tourner vers un passage relatif à Jésus-Christ et nous devrions le faire rapidement. C'est dans Hébreux chapitre 2. Quand nous pensons aux souffrances de Christ, cela nous amène à penser à Dieu qui n'était pas intervenu pour le soulager dans la chair. Nous devons aussi y penser dans le contexte du 2e chapitre du livre aux Hébreux. Je sais qu'il s'agit là d'un passage qui vous est bien familier, mais c'est un passage important dans le contexte du sujet dont nous parlons aujourd'hui. Voyons donc Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Vous avez entendu ça? Le prince de notre salut. Vous connaissez ce passage. Vous l'avez entendu. Il a été élevé à la perfection grâce à quoi? Par les souffrances. La nuit précédant sa crucifixion, il savait tout ce qu'il allait souffrir et cela lui faisait transpirer du sang. Monsieur Desimone nous en a fait un sermon très descriptif il y a environ 1 an. Oui, il avait transpiré du sang et imploré Dieu à 3 reprises, disant « Si c'est le moindrement possible, Père, épargne-moi cette épreuve. Je ne tiens pas à passer par là. » Bien sûr, il se souvenait aussi du plan de Dieu, de ce plan qu'il avait élaboré avec lui dès le début, un plan que tous deux considéraient parfait. C'est pourquoi il finit par se résigner et dire, dans Luc chapitre 22, verset 42, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous savez, et c'est intéressant, pendant que Jésus était sur la croix, il s'est produit un événement plutôt insolite, lorsqu'il s'est mis à crier juste avant de rendre l'âme, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai réfléchi à cela, Et nous avons spéculé sur ce que cela signifiait exactement. J'ai encore réfléchi à cela ce matin. Une pensée m'a alors effleuré l'esprit, à savoir que Jésus-Christ avait dû avoir comme une ligne téléphonique ouverte avec le Père durant toute sa vie dans la chair. On le voit notamment lors de cet incident qui eut lieu à l'époque de ses 12 ans. Oui, il avait une connexion avec Dieu le Père, une connexion spirituelle, et ce n'était pas une connexion à sens unique, elle était dans les deux sens. Ainsi, lorsque Jésus pria pour que Lazare soit ressuscité, le Père lui a répondu sur le champ. Il y avait entre eux une communication interactive et la ligne était ouverte en permanence, du moins jusqu'à l'instant avant sa mort. C'est à ce moment-là qu'il devint péché pour nous. C'était comme si Dieu avait alors raccroché. Pour la toute première fois, juste avant sa mort, Jésus avait eu connaissance qu'il était déconnecté du Père. Et c'est pourquoi il s'écria « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il savait que le Père était toujours sur son trône. Il savait que le plan se poursuivrait. Christ avait foi dans le Père, que tout allait s'arranger et que, dans 3 jours, il serait ressuscité. Il n'en doutait pas un instant. Mais, pendant un bref moment, il se sentit seul et s'écria « Où es-tu, Père ? N'avons-nous pas eu une expérience similaire, certains d'entre nous ? Nous avons prié, nous nous sommes rapprochés de Dieu, nous avons demandé une guérison, nous avons jeûné, nous avons supplié, nous avons prié pour la foi, et nous avons dit « Père, pourquoi mes prières ne dépassent-elles pas le plafond ? Pourquoi fais-tu la sourde oreille ?» Pendant un bref moment, Christ a pensé la même chose. Pour la première fois de sa vie, alors qu'il était sur la croix, il était en quelque sorte pleinement conscient de sa condition humaine, comme il ne l'avait pas ressenti durant tout son ministère terrestre. Il savait maintenant ce que c'est que de ne pas avoir une réponse immédiate, ce que c'est que de devoir attendre. Frères et sœurs, Christ ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas eu à faire lui-même. C'est à travers toutes ces souffrances qu'il dut endurer que lui, le Dieu parfait, fut encore perfectionné davantage. Reportons-nous maintenant à Romains chapitre 8, où se trouve une autre lettre de Paul. Il s'agit là d'un passage significatif. On peut se demander pourquoi Paul écrit ces choses. Évidemment, c'est parce que Dieu l'a inspiré à le faire. Mais Paul n'était pas un robot. Paul utilisait sa plume pour nous informer des leçons que Dieu l'avait amené à comprendre. Voyons donc Romains chapitre 8 et le verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes, frères et sœurs. Nous avons été appelés en tant que ses prémices. Nous portons son nom. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, nous avons été appelés pour hériter un jour toutes choses avec Christ. Quantité de sermons ont traité de ce thème. Je n'insisterai donc pas davantage sur ce point, même si c'est là un point très important. Poursuivons. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Notez que nous sommes co-héritiers de Christ. Comprenez-vous toute l'importance de cet énoncé? Pierre parle d'ailleurs de la même chose dans 1 Pierre chapitre 4, où il dit que nous devons passer par de dures épreuves et qu'il nous faudra souffrir comme Christ. Cela fait partie de notre appel. Cela fait partie de notre perfectionnement. Nous, à l'instar de Christ, qui nous a ouvert la voie, en sa qualité de premier des prémices, nous aussi sommes amenés à la perfection par les souffrances qu'il nous faut endurer. La plupart d'entre vous ici présents savent que nous avons, au cours des dernières années, dû traverser une série de rudes épreuves en raison des graves problèmes de santé de notre fille. Et durant cette époque, vous avez tous été pour nous une grande source d'amour, d'encouragement et de soutien. Mais ce n'est pas terminé. Heureusement que Tara a pris du mieux ces derniers temps. Elle n'a pas encore été guérie, elle est encore très malade, mais elle est bien mieux qu'elle ne l'était auparavant. Dieu est-il en train de la guérir? Est-ce que c'est un processus en cours? Nous l'espérons. Sinon, c'est qu'il nous donne en ce moment un répit, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. Mais vous savez, elle a vraiment été bien malade. Il vous est déjà arrivé de la voir en chaise roulante, parce qu'elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait même plus marcher. Il y a environ un an, certains d'entre vous l'ont peut-être vue en convulsion, la conséquence d'une crise épileptique. Et encore, vous n'en avez pas vu la moitié. Je sais que vous êtes au courant de ces choses. Nous avons assurément connu des temps difficiles. Vous aussi, vous avez connu des temps difficiles. Les choses sont difficiles pour nous tous. Tara a reçu de nombreuses onctions de la part de plusieurs ministres, et cela à maintes reprises. Je ne sais plus combien de fois il m'a fallu loindre moi-même à l'occasion d'un retour de ces crises. Dans certains cas, Dieu est intervenu et l'en a délivré. Oui, parfois on aurait dit qu'il était intervenu ponctuellement, suite à une onction et la prière qui l'accompagne. Mais le fait est que Dieu ne l'a pas encore totalement guéri. Certains d'entre vous ont peut-être entendu la chanson de Laura Story, appelée « Blessings ». Certains l'ont peut-être même chantée. C'est une chanson bien connue des communautés chrétiennes. Vers le milieu de cette chanson, elle s'interroge sur la façon de procéder pour connaître Dieu. Elle dit en particulier « Et si des milliers de nuits blanches étaient nécessaires pour savoir qu'il est proche ?» Pour ce qui est de Tara, je crois qu'elle a passé 1000 nuits blanches il y a 2 ans. Pour sa mère et moi, nous n'en sommes pas encore là, mais je pense que nous approchons probablement de 1000 nuits d'insomnie avec toutes ces épreuves. Quand je vous regarde, je vois des gens dans cette pièce qui, je le sais, ont depuis longtemps passé des milliers de nuits blanches, et Dieu ne les a pas encore guéris. Qu'apprenons-nous de ces épreuves, frères et sœurs? Qu'est-ce que j'apprends moi-même à propos de la guérison et de la foi à travers ces épreuves? Lorsqu'on est terrassé par une épreuve, notre première réaction n'est-elle pas d'en appeler à Dieu, d'implorer sa miséricorde? Puis, on lui demandera d'éclairer notre lanterne. On lui demandera « Qu'est-ce qui m'échappe? Que devrais-je voir? Qu'est-ce que cette épreuve est censée m'apprendre? C'est parce que je sais que tu n'es pas un Dieu vindicatif. Tu es un Dieu d'amour qui essaie de me transformer pour que je devienne comme toi. » Après avoir réfléchi, vous allez peut-être en arriver à comprendre que cette épreuve n'est pas destinée à une seule personne, mais à tous ceux qui lui sont attachés. Elle va en fait profiter à tous. Ainsi, quand je considère les problèmes qui ont affligé ma fille, je constate qu'ils lui ont permis de croître beaucoup sur le plan spirituel. Mais je ne sais pas qui a grandi le plus, elle ou moi. Ma femme a grandi, mon fils a grandi, les membres de notre famille élargie ont grandi. Beaucoup d'entre vous ont grandi avec nous, de même que nous avons grandi avec vous à travers vos épreuves. Toutes ces épreuves qui nous affectent sur le plan individuel nous dépassent, frères et sœurs. Par elles, Dieu accomplit un grand plan en nous tous. Il y a quelques années, je parlais à un membre de l'Église qui était en train de mourir d'un cancer. Son cancer avait commencé il y a environ 1 an et demi. Il en était arrivé à un point où l'on avait la nette impression qu'il savait que Dieu allait le laisser mourir. Et c'est là un point important que j'aimerais soulever. Parfois, nous voyons des gens qui subissent de dures épreuves, des épreuves de santé, et ils vont en arriver à un point où ils pensent que Dieu va les laisser mourir. Gardez-vous alors de leur dire « Oh, vous n'avez tout simplement pas assez de foi, Dieu va vous guérir. » Ils le savent bien que Dieu va les guérir. La question est seulement de savoir quand. J'ai connu assez de cas semblables parmi les membres de l'Église pour être convaincu que Dieu, par son Saint-Esprit, va souvent faire comprendre à de tels individus qu'il ne va pas les guérir pour l'instant, ou même qu'il ne les guérira pas durant cette vie. Et cela procure une incroyable sensation de paix. Nous le voyons à l'œuvre chez nos proches qui souffrent. Parfois, il se produit soudainement quelque chose et ils ressentiront alors une paix qui surpasse toute compréhension. Toujours est-il que cet homme que j'admirais à bien des égards me confia à un moment donné qu'il en était arrivé au point où il pouvait dire calmement « Je n'ai aucun doute que Dieu peut me guérir. Il pourrait me guérir en un instant. Cependant, je ne pense pas que telle est sa volonté. » Puis, après avoir réfléchi, il ajouta « Quand je pense à tout ce que j'ai vécu au cours de l'année et demie qui s'est écoulée et que je me pose la question de savoir si j'aurais aimé être guéri sur le champ, je me dis que si tel avait été le cas, je n'aurais tiré aucune des leçons que j'ai apprises au cours de cette épreuve. Pour moi, cette expérience a été profitable. » Et il avait raison. Cette épreuve l'avait transformé. Son épreuve m'a transformé également. Et elle a transformé sa famille, de même qu'elle a transformé ceux d'entre nous qui le connaissaient. J'ai aussi noté le changement qui en a résulté pour notre famille, à cause du problème que nous avons avec Tara. Frères et sœurs, toutes ces épreuves nous apprennent à voir les choses selon la perspective du Père. Lorsqu'on assiste impuissant à la souffrance d'un être cher, tout ce que l'on peut faire, c'est de prier et d'espérer. Nous voyons alors un peu ce que le Père a dû endurer jadis. Pensez-y. Pendant 33 ans et demi, le Père était sur son trône, tandis que son Fils était sur la terre. On se moquait de son Fils. Je suppose qu'il s'est fait tabasser quand il était enfant. On a dû le taquiner. On a dû le menacer. On a publiquement dit des mensonges à son sujet devant Pilate. On l'a battu. On lui a craché dessus. On a lacéré son corps. On lui a enfoncé des clous dans les mains et les pieds. Et le Père ne pouvait pas intervenir. Certes, il était Dieu. Il aurait pu intervenir. Mais il ne pouvait pas, car il avait formé un plan. Et il avait foi dans ce plan. Et Christ aussi, d'ailleurs. Christ a fait ce qu'il a fait en anticipant la joie qu'il attendait au sortir de son épreuve. Et c'est pour cette joie qu'il endura la croix. Le Père ne pouvait donc pas intervenir. Il a dû laisser le plan suivre son cours. Et il a dû assister à l'agonie de son Fils. Quand nous souffrons, en regardant souffrir un être cher, cela nous permet d'acquérir la perspective de notre Père qui est aux cieux. Car il a vécu la même situation. Comment pourrions-nous apprendre une telle leçon si nous ne passions pas par de telles souffrances? Vous pourriez en prendre connaissance en lisant un livre, mais ce ne serait alors qu'une expérience intellectuelle. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons aussi apprendre avec le cœur. Vous savez, en tant que famille, nous en sommes venus à une appréciation beaucoup plus profonde de Dieu, à quel point il est formidable et puissant, et à quel point il se soucie de nous. Et c'est incroyable, ironique même, selon l'optique du monde, d'en arriver à une telle conclusion quand il peut nous sembler que Dieu n'écoute pas les prières que nous lui adressons pour être guéri. Cependant, beaucoup d'entre nous ont appris la même leçon, à savoir que lorsque nous ne sommes pas guéris, nous commençons à voir Dieu sous un autre angle. Nous commençons à considérer nos épreuves comme autre chose qu'une simple épreuve. Elles feront alors partie d'un processus de changement. Une des leçons que j'en suis venu à comprendre, pas seulement à travers notre propre épreuve familiale, mais aussi à travers tant d'épreuves similaires vécues par le peuple de Dieu au cours des années, c'est que tant que nous vivrons dans le monde de Satan, nous allons souffrir. N'est-ce pas là une des leçons que nous enseignent les pains sans levain? Le péché est source de souffrance. Le Messie devait mourir sur la croix et souffrir au préalable. Et pourquoi cela? À cause du péché. Nous vivons dans le monde de Satan, un monde où règne le péché. À la fin de leur séjour en Égypte, les Israélites n'ont-ils pas dû souffrir avec les Égyptiens pendant les 3 premiers fléaux qui se sont abattus sur ces derniers? Certes, une partie de nos souffrances physiques, nous les attirons nous-mêmes. Mais j'ai travaillé avec trop de personnes dans l'Église pour ne pas en arriver à la conclusion que nous ne sommes pas les seuls artisans de nos problèmes de santé. Non, la réalité c'est que souvent nos souffrances sont dues au fait que nous vivons dans ce monde. Notre nourriture ne nous fournit plus les nutriments essentiels. L'air est pollué, l'eau est contaminée, il y a trop de stress, il y a trop de lumière, il y a trop de pollution par le bruit. À l'origine de tout cela est le péché, la conséquence de notre avidité. Nous vivons dans le monde de Satan. Nous devons souffrir dans ce monde de Satan pour apprendre et être convaincus que nous avons besoin d'un autre monde. Nous devons aussi souffrir dans ce monde afin de pouvoir travailler un jour avec ceux qui nous seront confiés dans le royaume de Dieu, car nous comprendrons alors ce qu'ils auront vécu. Nous aurons nous-mêmes appris ce qu'est la souffrance, et nous pourrons donc compatir avec eux et les aider. Si nous ne souffrons pas, nous ne développerons pas cette capacité de travailler avec eux. Vous savez, j'ai rendu visite à bien des gens en prison, et cela depuis mon adolescence. On en apprend beaucoup quand on fait cela, mais il n'empêche que c'est essentiellement une connaissance intellectuelle qu'on acquiert ainsi. Avec le temps, on sait un peu ce qui s'y passe. Mais ce n'est pas pareil que vivre une telle situation de l'intérieur. Moi, je ne voyais leur situation que de l'extérieur. Ainsi, dans le royaume de Dieu, je ne crois pas que je serai la personne idéale pour m'occuper de ceux qui auront vécu la prison. Par contre, quelqu'un comme Paul, de même que certains de nos membres actuels qui doivent vivre derrière les barreaux, ces gens-là seront à même d'aider d'anciens détenus, car ils auront eux-mêmes passé par là, ce qui leur donne une bonne compréhension de ce que c'est que d'être un prisonnier. Quand nous souffrons une certaine situation, nous comprenons celle-ci à un niveau beaucoup plus profond. Notre souffrance constitue un outil que Dieu utilise pour accroître notre foi et, simultanément, celle de ceux qui nous entourent. Comme nous l'avons dit, il nous faut de la foi, mais cette foi doit être d'un caractère particulier. Cette foi devra être d'autant plus ferme que nous aurons à souffrir une épreuve sans en être guéris, tout en ayant foi en Dieu qu'il est notre guérisseur. Oui, ne perdons pas cette foi. Dieu affermit notre foi à travers ce genre d'épreuve. Il la rend plus profonde. Quand Dieu choisit de ne pas guérir rapidement, nous devons garder la foi et commencer à voir les choses sous des angles différents. Premièrement, Dieu peut guérir immédiatement, mais il a pour nous un plan différent, un plus grand plan. Il nous faut le comprendre. N'est-ce pas ce que nous apprenons, certains d'entre nous qui souffrent? Je regarde autour de moi et c'est ce que je peux discerner chez beaucoup de nos membres. Deuxièmement, nous devons avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait lorsqu'il permet que nous continuions de souffrir, qu'il s'agisse de nous ou d'un être cher. N'en doutons pas, Satan va nous tirer les flèches enflammées du doute, mais il nous faudra alors nous arrêter et dire « Non, ce qu'il insinue est faux. D'ailleurs, il est un menteur et le père du mensonge. » Troisièmement, nous devons avoir la foi de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté tout en nous efforçant de trouver la paix dans notre épreuve. Quand nous en arrivons au point où nous permettrons à Dieu de régner dans notre vie, en dépit de l'épreuve qui nous assiège, nous trouverons cette paix. Et c'est ce que nous voyons chez certains de nos frères. Lorsque nous verrons ceux-ci souffrir et accéder néanmoins à un certain niveau de paix dans la souffrance, c'est qu'ils en seront arrivés au point où ils auront laissé Dieu régner dans leur vie. Ils auront alors franchi une importante étape spirituelle. Quatrièmement, il nous faudra être reconnaissant à Dieu, le Dieu Tout-Puissant de l'univers, de ce qui nous est appelé et de ce qu'il a eu foi en nous, que nous allions sortir victorieux de cette épreuve, que nous passerions l'épreuve sans qu'elle nous écrase, mais que celle-ci nous rapprocherait de lui et que nous en sortirions affermis. Cinquièmement, nous devons avoir assez de foi pour pouvoir prendre du recul par rapport à notre épreuve et voir le travail impressionnant que Dieu fait en nous et dans ceux qui nous entourent. Il y a des années, j'ai eu le privilège de servir dans une église où se trouvait un homme qui n'était pas beaucoup plus âgé que je ne le suis maintenant. Il avait le cancer, ce fléau de la société de Satan. C'est une peste inspirée par Satan. Il avait un cancer et il en mourait. Cela durait un peu de temps, mais ce fut néanmoins assez rapide. J'ai eu maintes occasions de parler avec cet homme qui était dans l'église depuis une vingtaine d'années. Il avait une vision incroyable. Il fut l'un de ceux qui commencèrent à changer ma perspective sur la foi et la guérison. La dernière fois que je l'ai rencontré chez lui, avec sa femme, il en était arrivé au point où Dieu lui avait fait comprendre qu'il ne le guérirait pas de son vivant. Il était conscient du fait qu'il allait mourir, que Dieu le laisserait mourir. Il ne doutait pas que Dieu puisse le guérir en une seconde, mais il était persuadé qu'il ne le ferait probablement pas. Alors que notre visite approchait de sa fin, je lui demandai, « Y a-t-il une chose en particulier pour laquelle je pourrais prier ?» Ce qu'il m'a répondu m'a paru intéressant. Il n'a pas dit « Priez pour que je meure sans trop de souffrance ». Notez qu'une telle requête aurait été tout à fait acceptable, car le type de cancer qu'il avait était extrêmement douloureux. Non, ce n'est pas ce qu'il m'a répondu. Mais il m'a regardé droit dans les yeux pour finalement se contenter de dire « Priez pour que, par ma mort, je puisse rendre gloire à Dieu, car je veux faire les choses comme il faut. » Alors je vous pose la question. Avait-il la foi pour être guéri? Il me semble que cela va de soi. Pour lui, pour ce saint de Dieu, cela ne faisait pas de doute. Priez pour que, par ma mort, je puisse rendre gloire à Dieu, car je veux faire les choses comme il faut, avait-il dit. Nul doute, il avait la vision du tableau d'ensemble. Il voyait ce que Dieu accomplit en nous, comment il nous transforme. Et par sa mort, il voulait glorifier le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui donne la vie, puis l'enlève pour la ramener finalement dans une résurrection. Et il savait que cette résurrection allait arriver. Quelle incroyable attitude! Quelle incroyable perspective que la sienne! Pourtant, frères et sœurs, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il n'avait pas une telle perspective. À présent, il en avait une qui n'était pas humaine, mais divine. Cette perspective qu'il avait maintenant était divine, le fruit de cette perfection qui résulte de nos souffrances. Frères et sœurs, nos épreuves, en particulier nos épreuves associées à des problèmes de santé, constitue l'un des outils les plus puissants dont Dieu dispose pour nous changer et nous amener à devenir davantage semblables à lui. Il nous faut en arriver à comprendre cette vérité profonde. En le faisant, nous développons la foi nécessaire pour endurer l'épreuve de ne pas être guéri. Frères et sœurs, notre Dieu est un grand Dieu. Il est notre guérisseur. C'est là un de ses titres. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il nous dit de venir à lui dans la plénitude de la foi pour lui demander de nous guérir. Et il est conscient du fait que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Mais notez qu'il n'est dit nulle part qu'une telle prière mènerait à une guérison immédiate. Parfois, une telle prière aura pour conséquence non pas une guérison spectaculaire et immédiate, mais plutôt des changements tout aussi spectaculaires et dynamiques, lesquels se produiront lorsqu'il n'y aura pas eu de guérison physique. Il nous faut donc nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi pour demander la guérison. Cela est toujours de mise. Si vous êtes malade aujourd'hui, allez voir l'ancien de service. Allez voir M. Franck. Demandez-lui de vous oindre au nom de Jésus-Christ, notre guérisseur. Ayez foi en Dieu qu'il vous guérira, parce qu'il le fera. Mais sachez que ce que Dieu a à son agenda n'est pas toujours conforme à ce qui est sur le nôtre, car il peut avoir un plan qui dépasse de loin ce que nous pourrions imaginer. N'oubliez jamais que certaines des plus grandes œuvres de Dieu sont accomplies lorsqu'il retarde la guérison, voire même décide de ne pas guérir. Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui parlé d'exemples bibliques qui traitent de la foi et qui montrent la perspective développée par les serviteurs de Dieu qui n'ont pas été guéris ou qui n'ont pas été guéris sur le champ. Nous avons tout autour de nous dans l'Église de Dieu des exemples de personnes qui ne sont pas guéries ou qui n'ont pas été guéries immédiatement, mais dont les vies ont changé, dont les perspectives ont changé, dont les cœurs ressemblent de plus en plus à celui de Dieu, et cela en raison de cette perfection qui a été opérée en elles par suite de leurs souffrances. Il nous faut continuer à grandir dans la foi. Il nous faut développer la foi nécessaire pour être guéris. Nous ne pouvons pas lui plaire sans elle. Donc, continuons de développer la foi et la perspective divine nécessaire pour ne pas être guéri. C'est là la foi que j'ai vue et que vous avez vue vous aussi chez tant de saints de Dieu, dont certains sont vivants, tandis que d'autres se sont endormis. Vous savez, cet individu dont je vous ai parlé précédemment, celui qui m'a dit qu'en rétrospective, il était heureux d'avoir cette épreuve, parce que sans elle, il n'aurait pas changé comme il l'a fait. Je lui avais alors laissé savoir que je continuerais à prier pour lui. Sur ce, il me répondit, « Scott, merci, j'apprécie. Je sais que Dieu me guérira. Il pourrait me guérir tout de suite, mais s'il ne le fait pas, il m'a regardé avec un sourire et une lueur dans les yeux, ajoutant avec une pointe de malice, « S'il ne le fait pas, sachez que je vous précéderai dans le royaume. Oui, si ma vie se prolonge jusqu'au retour de Christ, il va effectivement me précéder dans le royaume, car les morts en Christ ressusciteront en premier. » Frères et sœurs, la foi de ne pas être guéri est le fruit d'une perspective que Jésus-Christ avait. La foi de ne pas être guéri se manifeste aussi dans la perspective que Job avait à la fin de son épreuve. Et la foi de ne pas être guéri se voit dans la perspective que Paul avait. Pour terminer, je voudrais juste vous mentionner Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Pensez aux différentes péripéties de la vie de Paul qui l'ont amené à conclure comme il l'a fait. Voilà un homme qui était, comme Christ, habitué à devoir souffrir. Les souffrances lui étaient familières. C'était un homme à la fois profonde. C'était un homme qui était prêt à souffrir en martyr, et il eut l'occasion de le prouver. Il n'a pas reculé. Or, qu'a-t-il dit dans Romains 8, verset 18? Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Notre Dieu est un Dieu formidable. Il n'aime pas faire souffrir. Néanmoins, il fait usage de la souffrance, et cela depuis des millénaires, afin de modeler, de façonner et de perfectionner ses saints. Jacques disait de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Pourquoi? Parce que Dieu utilise ces épreuves et il utilise des situations comme lorsqu'il ne nous guérit pas, afin de nous rendre plus parfaits. Accrochez-vous donc, frères et sœurs. Nous allons y arriver et nous allons aider à introduire un monde où il n'y aura plus de souffrance.